Le résultat indique donc un écart finalement très très serré entre les deux candidats, Anne.
Et oui, à peine 2 millions de voix, hein, c'est par les deux candidats, ce qui est absolument inédit hein, dans l'histoire du Brésil. Et là encore, les sondages avaient prévu un écart beaucoup plus important, au moins 6 millions de voix. Alors ce score prouve une nouvelle fois que le bolsonarisme est vraiment bien implanté dans la société brésilienne. Cette élection a montré en fait un même Brésil très divisé, même Brésil qu'au premier tour, élection du 2 octobre dernier. On a un vote Bolsonaro dans les États les plus riches, au sud et à l'ouest du pays, là où l'agro-business, les industries sont très présents, et puis une gauche qui continue à dominer très largement le nord-est du pays, beaucoup plus pauvre, et où est originaire l'ancien président Lula.
Vous étiez à Brasilia avec les soutiens de Bolsonaro. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce qu'ils ont vécu cette défaite, Anne?
Plutôt très mal, hein, évidemment, puisque tout était prêt hier soir pour fêter la victoire sur l'esplanade des Trois Pouvoirs. Donc devant le Congrès, il y avait deux énormes chars qui crachaient de la musique, les jingles de campagne de Jair Bolsonaro, et puis des pasteurs évangéliques qui priaient. Il était même prévu une marche vers le palais présidentiel pour fêter la victoire. Évidemment, quand le résultat a montré leur défaite, c'était la douche froide. Des gens en pleurs, d'autres en colère, et puis une grande peur qu'on exprimait, le communisme aux portes du Brésil. Et en plus, en loin, on entendait la fête de la gauche qui, bien sûr, avait le ton d'énerver.
Ouais, j'imaginais. Est-ce qu'il sera compliqué de gouverner pour Lula?
Il est fort probable, effectivement, qu'il se le soit. C'est en tout cas la grande crainte du Parti des travailleurs, parce que le Congrès, qui est sorti des urnes le 2 octobre dernier, n'est guère favorable à Lula. Il n'aura pas la majorité, il devra faire des alliances, ce qui est toujours très compliqué au Brésil, parce qu'il y a énormément de partis. D'autre part, la majeure partie de la population va quand même être dirigée par des gouverneurs qui sont alliés du président Bolsonaro. D'ailleurs, hier soir, son ministre des Infrastructures, Tarcísio de Freitas, a remporté l'État de São Paulo, qui est l'État le plus peuplé et le plus riche aussi. Rio de Janeiro et Minas Gerais, qui sont aussi des États très importants, seront aussi gouvernés par des alliés du président. Alors Lula a cependant une grande expérience de négociateur, hein, qui est issu d'ailleurs de son passé de syndicaliste. Il dit qu'il veut essayer de réconcilier ce pays, parce que c'est vrai que tous les bolsonaristes, d'ailleurs par Tarcísio de Freitas en fait partie, ne sont pas forcément des extrémistes.
Et on va justement écouter Lula, qui a pris la parole tout à l'heure.
O Brasil é minha causa.
Le Brésil est ma cause.
É minha causa.
Les gens sont ma cause. Combattre la misère est ma raison de vivre jusqu'à mon dernier souffle. Un gros câlin à tous et que Dieu me protège jusqu'à ce que je commence mon voyage le 1er janvier.
Obrigado.
Merci.
Et Bolsonaro, lui, ne s'est pas encore exprimé. Anne, comment risque-t-il de réagir?
Écoutez, c'est très compliqué de le savoir parce que le président est plutôt imprévisible. Il change souvent d'avis. D'ailleurs, on ignore ce qu'il a fait hier soir. Hein. Il ne s'est pas exprimé. On ne sait pas qui était avec lui. On ne sait pas non plus ce qu'il fera aujourd'hui ou demain. Il y a maintenant deux longs mois de transition. Lula devrait préparer son gouvernement. L'équipe précédente est censée participer, au moins transférer des documents, des informations. Mais les proches de Lula ont déjà dit qu'ils s'attendaient à ce qu'il n'ait aucune coopération hein, avec l'extrême droite. On ne sait même pas si le 1er janvier prochain, donc le jour de l'investiture de Lula, il acceptera bien de passer l'écharpe présidentielle à son successeur. Alors, on s'attend quand même à ce que Jair Bolsonaro ne jette pas si facilement l'éponge, mais on ignore encore ce qu'il compte faire.
À suivre. Merci Anne Vigna pour ces premiers éléments. Et nous allons plus loin avec Frédéric Louault. Bonjour Frédéric Louault.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre d'études de la vie politique et co-directeur du Centre d'études des Amériques à l'Université libre de Bruxelles. Le Brésil est de retour, c'est aussi ce qu'a déclaré Lula cette nuit. Comment le Brésil va-t-il se repositionner sur la carte du monde avec cette victoire?
Alors c'est peut-être la partie la plus simple hein, de tous les défis qui attendent aujourd'hui Jair Bolsonaro, qui attendent Lula, puisque l'ancien président Lula a laissé de très bons souvenirs hein, parmi ses partenaires internationaux. Et donc, il s'est fixé pour objectif de relancer, de redorer l'image du Brésil sur la scène internationale et de renouer les partenariats qu'il avait noués entre 2003 et 2010. Mmh. Alors, bien sûr qu'il y a des éléments qui vont être peut-être un petit peu plus compliqués. Hein. Je pense notamment à la position du Brésil par rapport à la guerre en Ukraine, puisque pendant la campagne électorale, Lula s'est distancié aussi de ses partenaires, notamment des États-Unis et de l'Union européenne. Donc il va y avoir des négociations importantes entre le Brésil de Lula et les partenaires historiques du Brésil. Mais le grand objectif, c'est quand même de rassurer les partenaires, notamment sur les questions des politiques environnementales, hein, qui est un thème très important sur la scène internationale et pour lesquels il y a beaucoup d'attentes envers Lula. Et Lula s'est engagé d'ailleurs à retourner la page du bolsonarisme et de la déforestation.
Anne Vigna nous l'a dit, hein, Lula hérite d'un Brésil divisé. Quels sont néanmoins ses atouts pour réconcilier, pour rassembler, pour soigner, j'ai envie de dire, la société brésilienne ?
Alors, comme vous l'avez dit, à court terme, l'idée, c'est surtout de pacifier la société, hein, qui est une société très polarisée, très divisée. Hier soir, il n'y a pas eu de violence importante, hein, il y a eu quelques échauffourées, mais les craintes de violence sporadiques, spontanées, ont été un petit peu étouffées aussi, grâce au silence de Bolsonaro, hein, qui n'a pas soufflé sur les braises et qui s'est emmuré, enfermé dans son palais présidentiel et qui n'a d'ailleurs toujours pas officiellement reconnu sa défaite. Mais donc pour Lula, finalement, c'est son expérience en tant que président de la République, sa capacité de négociation et sa capacité à circuler entre les différents secteurs de la société. Hein. Il est aussi à l'aise avec les secteurs économiques qu'avec les syndicats. Et donc il va jouer sur cette expérience négociatrice pour essayer de construire une majorité très large qui va devoir lui permettre de gouverner, mais de gouverner sans grand projet de réforme finalement. Parce que sa marge de manœuvre est trop faible, il a trop promis à des alliés jusqu'à la droite traditionnelle, et donc il va devoir maintenant rendre finalement politiquement les services qui lui ont été rendus ces derniers mois.
Mmh. Mais justement, peu de réformes envisageables dans un premier temps. Quels sont, malgré tout, les grands chantiers que veut mener Lula pour les Brésiliens?
Il a dit dans son discours, hein, le premier chantier, c'est le chantier social. Il a lutté contre la pauvreté lorsqu'il était président entre 2003 et 2010. Hein, 30 millions de personnes étaient sorties de la pauvreté. Et ce qu'il dit, c'est que tout a été déstructuré, hein, déconstruit à la suite de son départ en 2010. Et que maintenant, il doit reconstruire ce qu'il avait déjà construit entre 2003 et 2010. Un peu le mythe de Sisyphe, hein, Lula qui doit remonter son rocher au sommet de la colline. Et pour ça, il doit aussi relancer l'économie. Alors, il y a bien sûr une dépendance du Brésil sur la conjoncture économique internationale. Lula, ça va prendre du temps aussi de reconstruire, de relancer le Brésil. Mais son principal objectif, c'est de relancer la croissance pour en redistribuer les fruits aux populations les plus pauvres et de lutter contre la faim et de lutter contre l'extrême pauvreté.
Merci pour ces éléments.